Et ben oui, voilà, je suis en live, il y a écrit vous êtes en direct, ici aussi vous êtes en direct. Comme à l'accoutumée, on se retrouve le mercredi aux alentours de 20h pour ce live habituel, histoire de compléter vos connaissances en nutrition et en même temps que vous puissiez me poser l'ensemble des questions qui vous trottent par la tête. Ce qui est important, puisqu'on est dans une période, j'arrête pas de le répéter au fur et à mesure des lives, on est dans une période où il y a une distribution de mauvaises informations qui sont catastrophiques. On va en parler justement aujourd'hui parce que mon travail, salut tout le monde sur Instagram, mon travail d'aujourd'hui, il a été marqué par ce que je vais vous raconter à l'instant, c'est-à-dire que j'ai eu plusieurs personnes d'affilée sur la fin de l'après-midi. À chaque fois, ces personnes, ça a été la même histoire. Ça veut dire que c'était des gens qui se lamentaient. Je vais vous raconter deux histoires aujourd'hui. La première, c'est la personne qui se lamentait à la consultation et qui me disait, au fond, je ne comprends plus rien. Sa vraie histoire, c'est qu'elle pesait 54 kilos. Donc pour une taille d'1,54 m, et elle avait perdu difficilement, il y a quelques années de ça, 49 kilos, pardon, elle avait perdu 5 kilos pour arriver à 49 kilos, et m'a-t-elle dit, pour arriver à ce résultat, elle avait adopté une technique qui consistait à manger au petit déjeuner quelque chose d'assez banal, comme on le fait tous, genre de biscottes avec du beurre, un yaourt, un verre de jus de pomme. Ça, j'avais retenu qu'elle était très attirée vers le jus de pomme. Elle mangeait exactement ce qu'elle voulait le midi parce qu'elle avait pris l'habitude de commander, ce qui devient le cas de plus en plus, notamment pour les gens qui travaillent en bureau. Ça veut dire pizza, burger, mais en général, c'est des produits assez gras. Et elle me disait qu'en échange d'avoir ce petit déjeuner et ce déjeuner où elle contrôlait rien, elle admettait qu'elle était adepte plutôt de la malbouffe. Le soir, elle ne mangeait plus et elle trouvait que c'était remarquable parce que non seulement son sommeil était meilleur, mais en même temps parce qu'elle avait perdu ses 5 kilos dans un délai de temps qui n'était pas impressionnant puisqu'elle avait fait ça sur un délai de temps de 2 mois, ce qui n'est pas énorme malgré tout. C'est quand même une perte de poids raisonnable. La difficulté, c'est que cette jeune fille, pour vous raconter l'histoire, avait perdu ses 5 kilos il y a 3-4 ans. L'histoire est très fraîche dans ma tête. Et au mois de juin, elle s'est mariée. Elle a repris les 5 kilos et depuis, non seulement elle n'arrive pas à reperdre ses 5 kilos, mais en même temps, elle n'arrive plus à s'imposer la discipline qu'elle s'imposait préalablement, c'est-à-dire ne pas manger, manger exactement ce qu'elle voulait au repas du midi, un repas de malbouffe, et le repas du soir, ne plus manger, elle n'y arrivait plus. Elle arrivait de temps en temps à ne pas manger, mais ce n'était pas régulier, et en même temps, elle n'arrivait plus du tout à maigrir. Moi, je lui ai expliqué que le rythme de vie social conditionne beaucoup notre façon de manger. Une jeune fille qui, auparavant, n'est pas mariée, n'a pas une vie de couple, vit chez ses parents, peut aller s'isoler dans sa chambre le soir et pas être stimulée par la nourriture, voire aller voir ses copines ou sortir, cinéma, théâtre, restaurant, concert, ce qu'elle veut. C'est une jeune fille qui n'est pas stimulée par la nourriture. À partir du moment où elle rentre dans un climat extrêmement familial, ça veut dire avec une vie consacrée autour du repas, puisque son mari rentre le soir, lui il a faim, il a envie de manger, cette personne, forcément, elle n'arrive plus à s'imposer l'exercice de ne pas manger le soir, et même si elle se l'impose, à un moment donné, la stimulation de la vision de la nourriture de son mari va réussir à la faire manger alors qu'elle avait décidé de ne pas manger parce qu'elle s'était autorisée à manger n'importe comment le midi. De surcroît, socialement, je lui ai dit que je suis pas old fashion, je suis pas un vieux jeu, mais je lui ai dit que quand même elle venait se marier, donc c'était pas normal de s'asseoir à table, de regarder son mari manger et en même temps de croiser les bras et de le voir avaler sa dernière bouchée. Ensuite, j'ai fini par lui dire que si elle voulait préserver son pronostic à long terme, de toute façon, il fallait avoir à un moment donné des repas mieux structurés et qu'il fallait qu'elle mange. Elle a cherché à comprendre pourquoi et je lui ai expliqué que l'harmonie alimentaire, ça joue beaucoup dans la perte de poids ou dans la prise de poids, et qu'à partir du moment où elle distribuait de la nourriture avec régularité à son corps et de façon bien organisée, elle améliorait son pronostic d'amaigrissement pour plein de raisons. La première raison, c'est parce qu'elle gère mieux sa faim. Sa faim, elle est rythmée par l'absence de nourriture. Quand vous n'avez pas faim, c'est normal au bout d'un moment quand vous avez mangé, c'est normal au bout d'un moment d'avoir faim si vous n'avez plus rien à manger. Par contre, quand elle s'impose un exercice qui consiste à s'obliger à ne pas manger, elle réveille chez elle une frustration, celle de ne pas manger, qui va elle-même réveiller, ce que je vous ai expliqué à de nombreuses reprises, des compulsions alimentaires. La deuxième raison est plus technique. Les aliments vous amènent à la fois un ensemble de protéines, on va parler essentiellement de ça, de glucides et de lipides. Mais en ce qui nous concerne, quand elle va manger des protéines, elle augmente sa satiété. Ça veut dire que, on le sait, c'est là-dessus qu'ont joué les régimes tout protéines ou les régimes sans sucre. En mangeant des protéines, vous augmentez votre satiété. Et dans les régimes tout protéines, il y avait tellement de satiété et tellement de sortes de corps cétoniques qui se promenaient dans le sang que l'appétit diminuait et qu'en fait, les gens réduisaient tout seuls leur bilan énergétique. Et la deuxième chose, c'est quand un repas est bien composé, il a sa ration de végétaux. Les végétaux vont avoir deux fonctions, augmenter la satiété, mais en même temps, alimenter le microbiote, transformer les micro-organismes, on en a parlé dimanche dernier, en bonnes bactéries qui peuvent agir également sur le surpoids ou la perte de poids. Et donc le fait de plus manger par moment permet de mieux maigrir qu'en arrêtant complètement de manger. Ajoutez à ça que le travail digestif, c'est-à-dire le fait de digérer les nutriments et de les absorber pour les transformer, de digérer les aliments et de les transformer pour les absorber en nutriments, eh bien c'est un travail qui coûte de l'énergie, qui fait monter la chaleur du corps et donc de fait qui entraîne une augmentation de la perte de poids. Voilà pourquoi ne pas manger ne sert à rien. En fait, il faut manger. Alors, on peut choisir plein de façons de manger. On en a parlé à propos du jeûne intermittent. C'est vrai qu'on peut de temps en temps accélérer un amaigrissement en utilisant le jeûne intermittent, mais la méthode en elle-même ne suffit pas à provoquer un amaigrissement. Je vous ai donné régulièrement l'exemple des gens qui pratiquent des jeûnes religieux type le ramadan et un tiers d'entre eux prennent du poids, un tiers stabilisent, un tiers ont perdu du poids, donc ça signifie rien. C'est vraiment la distribution des aliments pendant les 8 heures qui va faire la différence. Le deuxième sujet qui était intéressant aujourd'hui, comme quoi vous voyez, il y a des journées qui sont vraiment très riches en enseignements, c'est une femme qui est venue voir pour prendre du poids. Elle en avait pris il y a quelques années, toujours avec mon assistance. Elle pesait grosso modo 51 kilos et elle voulait monter à 58-59 kilos. C'est son choix. Être mal dans sa peau, ça signifie ni être gros ni être maigre, ça signifie être mal dans sa peau. Et ça, je le dis à tout le monde, c'est pour ça qu'il n'y a pas de poids idéal pour moi. Le poids idéal, c'est celui, arithmétiquement en tout cas, le poids idéal, c'est celui où vous vous trouvez bien dans votre miroir et où vous vous sentez bien dans votre peau. À ce moment-là, c'est ça le poids idéal. C'est pas forcément un poids qu'auront défini quelques règles arithmétiques définies par deux ou trois scientifiques. Donc cette femme veut prendre du poids et au moment où je la pèse sur ma balance, donc je l'avais faite passer de 50 à 59 kilos de mémoire, et elle veut revenir à ses 59 kilos, elle se pèse, et là, aux surprises, elle pèse 60 kilos. Qu'est-ce que ça voulait dire en termes psychologiques? En fait, elle est à une charnière de sa vie, c'est-à-dire qu'elle travaillait autrefois dans une entreprise, les patrons de cette entreprise l'ont vendue, ils l'ont donnée à une autre entreprise, le rythme de cette entreprise, le climat de cette entreprise ne lui convient pas, ça la perturbe considérablement, elle se sent mal dans sa peau. Elle se sent mal dans sa peau et elle dit que c'est à cause de sa silhouette, de sa taille, là en l'occurrence c'est pas de la perte de poids mais d'une prise de poids qu'elle souhaite, mais en réalité elle a fixé la problématique qu'elle rencontre avec son milieu professionnel sur son poids parce que ça l'arrange au fond, ça lui permet d'éviter le sujet qui consiste à lui dire que tous les matins elle va dans un endroit où elle déteste se trouver. En fait, des situations comme celle-là, ce sont des situations qui nuisent au bonheur de votre vie. Et chaque fois que vous avez une situation qui nuit au bonheur de votre vie, quelle qu'elle soit, ça peut être la professionnelle, des fois financière, des fois amoureuse, des fois familiale, quelle qu'elle soit, de temps en temps, certains d'entre nous vont avoir tendance à reporter leurs problématiques autour de leur corps. Donc, on va se plaindre d'avoir 2-3 kilos ou 20-30 kilos en trop alors qu'on se sentait bien auparavant, simplement parce qu'on est mal. On est mal d'une situation qui ne nous convient pas et qui altère notre bonheur de vivre. Cette notion de bonheur de vivre, je la retrouve chez beaucoup de gens. J'ai discuté ce matin avec un ami qui habite très très loin à l'étranger, qui m'a dit désormais les journalistes vouloir être intéressés par le bien-être et le côté épanouissement personnel, donc ce qu'on appelle l'épanouissement, le développement positif. Et en fait, beaucoup d'entre nous ressentent ça, peut-être plus en ce moment qu'autrefois, parce qu'on a cassé nos rythmes. Ça veut dire que pour beaucoup d'entre nous, le travail est passé en télétravail, il y a eu des périodes de confinement, il y a eu l'angoisse, il y a eu séparation avec les familles, il y a eu des tas de choses. Et finalement, on recommence à s'intéresser à notre bien-être. Souvenez-vous qu'à un moment donné, pendant les périodes de confinement, je vous ai dit que On aurait tort de se laisser aller. Bon, beaucoup d'entre nous ont pris du poids, c'est à peu près habituel. Et on aurait tort de se laisser aller, que ça valait le coup de se mettre au régime parce que c'était un des rares moments de notre vie, isolé chez nous, etc., où on allait pouvoir s'occuper que de nous. Et donc, certains d'entre vous ont mis ça en pratique. Bien sûr, ça n'a pas toujours fonctionné comme on le voulait, mais je pense que le bien-être, le bonheur de vivre, s'aimer soi-même, aimer la vie qu'on mène, c'est vachement important. Et il faut se battre pour essayer d'obtenir ça. Alors, il y a beaucoup de choses qui iront contre ça. Depuis la maladie, en passant par les décès, on a eu de temps en temps ici des personnes qui nous ont raconté leur détresse au décès d'un conjoint ou bien à cause de la maladie. Bon, ben voilà. C'est des périodes où il faut essayer de tout trouver à un moment donné pour essayer de restaurer le bonheur de vivre. C'est quand même le plus important. On n'est pas éternellement sur cette terre, donc il faut en profiter. Bonsoir Louis Bosson, bonsoir Patrick Semeria, bonsoir grosso modo tout le monde. Béate, ravie de te retrouver ici. Tu vas faire une raclette ce soir, on en a parlé la semaine dernière. Ça sera une tranche de fromage pour toi, 50 grammes de bœuf, 2 tranches de viande dégrison, pommes de terre, champignons et en plus un verre de vin rouge. C'est à peu près équilibré, mais je sais que maintenant tu sais jouer avec le régime exactement comme il faut. Pascal Sebag, tu travaillais avant en 3-8 avant et un jour on a eu une réunion avec une diététicienne pour apprendre à avoir des repas équilibrés quand on était nuit. Elle nous a dit il faut inverser les repas, manger à nuit en mangeant 2 repas et le petit déjeuner, et la journée ne pas manger puisqu'on est censé dormir. En fait, c'est pas une règle, elle a voulu imposer une règle, c'est pas non plus la très bonne règle. En fait, les gens qui travaillent de nuit doivent décaler leur planning alimentaire proportionnellement à leur travail de nuit. Mais c'est très compliqué pour un travailleur de nuit de s'amener à manger. Donc ça dépend vraiment du rythme. Je parle à tous ceux qui travaillent de nuit ici. Si vous rentrez de votre travail, que vous vous couchez tout de suite, décalez votre petit déjeuner à votre réveil, faites votre repas en fin d'après-midi et amenez-vous ce qu'il faut à manger pour le soir pendant la nuit. Si vous prenez un petit déjeuner le matin, prenez une collation vers 3-4 heures de l'après-midi et faites un plus gros dîner le soir. Chacun d'entre nous doit trouver son rythme. C'est une bêtise d'avoir voulu fixer les temps de sommeil, les temps de repas des gens. Enfin bref, de vouloir donner des règles de vie qui doivent s'appliquer peut-être collectivement, mais en fait, individuellement, on a chacun notre rythme. Corinne, tu as fait 12 000 pas en allant te promener. Bon, bah, c'est génial. Alors, Isman est une jeune femme de 30 ans qui fait de la dénutrition. Qui est très anxieuse, qui saute le repas du soir, qui mange 650 calories par jour et qui n'arrive pas à perdre du poids, ben voilà, je viens de répondre à ta question. En fait, ça veut dire qu'il faut rééquilibrer correctement ton régime, avoir une part de végétaux, une part de protéines, légèrement de glucides, légèrement de lipides, et ça marchera beaucoup mieux en mangeant. Voilà. Marie-Thérèse, ta grand-mère et ta mère t'ont appris à manger, ben voilà, acheter bio, prendre du butternut. Assaisonner, tu me dis, avec juste du cumin. Les assaisonnements, c'est très important pour donner du goût aux aliments. Il n'y a pas que les assaisonnements gras. On peut assaisonner avec des herbes, avec des épices. Et donc, ça s'appelle donner du goût à la nourriture. Peut-on manger le soir avant quelle heure? Mais tu peux manger. L'important, en fait, c'est de manger pas trop tard le soir avant le coucher. Ça veut dire que c'est bien de laisser 2-3 heures avant d'aller se coucher. C'est surtout ça, hein. Voilà encore un autre exemple. Désolé d'avoir réveillé ça, Élise Ravon. Tu me dis que depuis le décès de ton fils, il y a un an, tu as pris 20 kilos, que faire? Tu pourras faire un régime quand tu iras mieux. Ça veut dire, le deuil d'un enfant, c'est un des deuils les plus terribles qui existent. C'est quelque chose avec quoi tu vas vivre pendant le restant de ta vie, probablement, parce que c'est une douleur très, très intense. À un moment donné, de toute façon, je suis pas mystique, mais dans la quasi-totalité des religions, on dit qu'il faut privilégier la vie. Eh bien, à un moment donné, tu vas te retrouver en situation de te dire, bon, les choses sont ce qu'elles sont. On est tous amenés à ce que ça nous arrive un jour. Très bien. Donc, à partir de maintenant, je vais m'occuper de moi et peut-être t'occuper de toi en pensant à ton fils qui n'aurait peut-être pas supporté l'idée de te voir désespéré avec cette histoire de 20 kilos. Tu seras obligé de passer par un régime. Il faut essayer de le faire assez doux. Voilà. Faut pas le faire trop violent. Bonsoir Jean-Pierre, ça fait plaisir de te voir ici, hein. Clotilde, 1,72 m, grâce à vous j'ai perdu 5 kilos, je suis à 75, mais là je stagne. Clotilde, tu connais les techniques, ça veut dire que quand il y a une stagnation qui dure au-delà d'une semaine, en général on entreprend le régime flash, 900 calories pendant 48 heures, et on fait ces 900 calories une fois par semaine pendant 48 heures, hein. On ne mélange pas. Voilà, ça j'adore ça. Sylviane Cotte, il ne faut pas mélanger les protéines avec les féculents dans le même repas. Vous en pensez quoi? C'est une bêtise complète. Je n'hésite pas à le dire. C'est stupide, ça repose sur rien. C'est juste pour créer un conditionnement psychologique chez les gens et leur faire croire en adoptant cette chose-là, un peu comme un gris-gris, que ça les aidera à maigrir total pour juste diminuer leur alimentation. Mais ça ne sert à rien, c'est idiot, hein. Alors, Colombe, tu as la flemme ce soir et donc tu as décidé de prendre deux tranches de jambon, deux tocinettes, vache qui rit, un muffin. Écoute, moi, je suis assez pour ça, je veux dire. C'est pas inscrit dans le marbre qu'on doit faire les repas toujours de la même façon, entrée, plat, dessert, etc. Dans les régimes que je vous donne ou dans les aliments que je vous donne, vous avez bien vu que dans les équivalences sur Savoir Maigrir, vous avez des sandwichs, vous avez des pizzas, vous avez des spaghettis, etc. C'est ça le vrai régime, c'est jouer avec les aliments, hein. C'est pas juste s'amuser à manger exactement une feuille de salade, un petit bout de poisson, etc. Monique a 80 ans, elle a perdu 23 kilos. Eh ben, écoute, Monique, félicitations, hein. Sur Insta, Jaliska Nieska, c'est tellement mieux de manger en fonction de son rythme. Bien sûr que tu as raison, évidemment, hein. Amdeloc, bonsoir. Si nous faisons de la musculation et que nous ne prenons pas de grammes de protéines par kilo de poids, la construction va-t-elle s'arrêter du muscle? Non, non, elle va pas s'arrêter. 2 grammes, c'est quand tu veux vraiment forcer, hein. C'est pas nécessaire. Si certains jours le déficit calorique est trop important, le corps ne risque-t-il pas de stocker lors des prochains repas? Oui, parce que tu te contrôleras mieux sur les prochains repas. Tu te contrôleras moins bien sur les repas suivants. The Kaeto, pour le régime flash au petit-déj, puis-je prendre un sachet de porridge Gerlinéa sans le fromage blanc en plus? Ouais, tu peux, d'accord. J'ai hésité quand même, hein. Donc c'est mieux si tu le fais pas, mais tu peux quand même. J'ai fait ce midi la blanquette de veau Magimix sans aucune matière grasse, ça a été délicieuse. Ben merci, je me bagarre pour demander à l'équipe de diététique et moi-même de faire des menus et des recettes goûteuses. On a besoin de ça parce que si vous ne prenez pas de plaisir à l'alimentation, vous allez détester le régime. Pourquoi font-ils monter les glucides la veille d'un grand run? Parce que quand tu montes beaucoup les glucides, au bout d'un moment, ils vont se stocker dans le muscle sous forme de glycogène et donc tu auras de la réserve énergétique. Ça te permettra, pendant que tu cours, de pouvoir dépenser plus longtemps. Peut-on remplacer 100 grammes de fromage blanc par un skyr de 145 grammes midi et soir? Non, c'est un peu trop. Il faut prendre 100 grammes pour 100 grammes, sauf si c'est des skyrs à 0%. Auquel cas, oui, là, c'est pas parce qu'il y a 50 grammes de plus que ça va bouleverser les choses, hein. Merci à tous pour les gentils compliments que vous m'envoyez en général. Ça me touche, hein. Vous savez, c'est quand même une partie de l'équipe et moi-même. Notre récompense, c'est quand même ça, hein. Ça veut dire, quelque part, on fait notre métier. Mais notre métier, sa récompense, c'est aussi dans votre satisfaction. S'il n'y a pas de satisfaction, vous savez, on n'est pas fier de ce qu'on fait. Et dans ce cas-là, on n'aime pas continuer, hein. Toujours sur Facebook, que pensez-vous de Julien qui a perdu 5 kilos en enlevant 3/4 de son estomac? Que peut-il manger? Non, rien, c'est une technique qu'on utilise à l'heure actuelle, ça s'appelle une sleeve. C'est une façon de réduire la consommation alimentaire des gens, hein, mais c'est pas une technique à reproduire pour tout le monde, hein. Ça veut dire ça a marché sur lui. Mais c'est simplement parce qu'il en avait besoin, parce qu'il avait pas, il arrivait pas à modérer son alimentation. C'est tellement mieux de manger en fonction de son rythme, mais tu l'as dit, j'ai répondu à ta question. Que pensez-vous du manioc et du tarot? Alors, le tarot, je ne sais pas ce que c'est. Le manioc, ça me va très bien, ça peut très bien remplacer la farine, donc je n'ai pas de souci avec ça. Ça peut faire des bonnes recettes. Que pensez-vous des compléments alimentaires? Les compléments alimentaires, ça aide dans un régime, mais ça ne remplace pas les médicaments quand il y a une maladie. Donc, mais dans les régimes, les compléments alimentaires que j'aime donner, c'est les ferments lactiques. Peut-être le konjac, parce que apparemment beaucoup d'entre vous sont satisfaits de ça. J'ai demandé à la société avec qui je travaille, Diet and Detox, de mettre du konjac. Les draineurs, parce que ça oblige les gens à boire finalement et ça les fait un peu plus uriner. Voilà, c'est surtout ça. Et après compléter de temps en temps en magnésium et en vitamines, hein, donc ça c'est classique. Peut-on faire le total calorique à la semaine? Oui, on peut le faire à la semaine, oui, ça marche. Pour mon article, si je vous envoie mes questions demain ou vendredi, vous aurez le temps de répondre avant lundi. J'essaierai, c'était là. Ça dépend s'il y en a beaucoup ou non. Pourquoi, malgré un changement d'alimentation, ma stéatose hépatique est toujours là? Je tente de maigrir depuis plus de 18 mois. C'est parce que tu n'as pas encore réussi à maigrir. C'est le jour où tu maigriras que ça sera réglé comme problème. Docteur, un grand merci, que Dieu vous protège, vous êtes une belle âme. Ah ben écoute, ça fait plaisir, Saber DRD, donc c'est vraiment gentil. Bonsoir, je mange tous les midis du pain country, 5 tranches avec du miel au chocolat, c'est bien ou pas? J'aime pas dire que c'est pas bien, mais tu pourrais faire vachement mieux, c'est pas top, hein. Franchement, c'est pas top, hein. Ben, c'est gentil tous vos petits compliments, j'adore les tomates cerises, j'entends du bruit, c'est mon gendre qui est venu courir. Et j'en mange entre deux, puis je continuais. Ouais, absolument, c'est vachement bien. Que pensez-vous du konjac pour aider à maigrir? Ça peut rendre service. Si ça te coupe l'appétit, c'est bien. Que pensez-vous de la diète cétogène chez une personne épiétique? C'est le seul endroit, c'est la seule raison pour laquelle ça vaut le coup de faire une diète cétogène. Hein. Coucou, depuis Barcelone, au milieu de la matinée, je mange deux dattes, médules et cinq amandes. Je continue à être stable et j'adore le soir les bonnes soupes. C'est ok si tu prends pas de poids, oui. Peut-on prendre des magnésium toute l'année? Oui, Jacqueline. Oui, il n'y a pas de problème. Que faire après une crise d'hyperphagie pour limiter le stockage et la prise de poids? Faire un repas de remboursement sur le repas suivant. Depuis que j'ai commencé le régime, il y a un an, le soir j'ai des fourmillements aux pieds, c'est possible. Il faut que tu rajoutes du magnésium à ton alimentation. Ça fait longtemps que je ne plante plus d'entrée, c'est la mode de plus prendre de hors d'œuvre. Bonsoir docteur, j'espère que vous allez bien. Quand on mange un gâteau avec du café sans sucre, est-ce bénéfique ou non? Tu peux, si ça dépend de ton poids et de ce que tu souhaites, bien sûr, tu peux. C'est pas interdit non plus de manger des gâteaux, surtout si on contrôle pas son alimentation. Hein. Que pensez-vous de faire une troisième dose? Ben, je l'ai faite. Moi, je suis soignant, je l'ai faite. C'est clair, ça augmente par 10 l'immunité, donc c'est quand même moins dangereux que de pas la faire. Hein. Un Sveltes ferme et fondant au chocolat, 1,4% de matière grasse équivaut à quoi, SVP? Ça équivaut aux féculents, aux fruits et aux produits laitiers. Oui, on pense tous à Cathy Chou, c'est notre amie. J'espère qu'elle pourra nous entendre de temps en temps. Les purges à l'huile de ricin, c'est, ouais, si tu veux, tu peux le faire, ça mange pas de pain, quoi, voilà, c'est pas, les petits pois, ça fait grossir, c'est un peu comme les féculents, je mâche pas de fruits, c'est pas terrible de pas manger de fruits. Quelle recette plutôt saine peut-on faire avec des châtaignes? En fait, il faut que tu fasses un mélange. Les châtaignes, c'est des féculents. Tu peux faire une purée de châtaignes, mais tu peux mélanger, par exemple, avec du butternut. Et là, à ce moment-là, ça marche très bien. Est-il vrai que l'on ne doit pas manger du pain complet au petit-déj? Non, c'est faux. Pourquoi on grossit en prenant de la cortisone? La cortisone est une hormone anabolisante. Elle renforce l'assimilation des aliments qu'on prend. Mes amis, il est déjà 20h15, demain je dois tourner les vidéos pour YouTube que vous aimez bien tous et toutes, donc si vous avez des questions je continue, mais sinon je vous retrouve plutôt dimanche à 19h pour un autre live où je pourrai répondre à vos questions. Demain je vous prépare des bonnes vidéos YouTube, la vidéo sur la spiruline elle vous a bien plu, donc allez la regarder, c'est un produit, vous avez vu que j'étais neutre, j'en dis pas de mal, j'en dis pas de bien, donc... on se voit dimanche prochain à 19h. Salut tout le monde.